de ma vie. Il y en a qui se la sont posée, cette question-là? Ouais, ok, je ne suis pas tout seul, ça me rassure. Est-ce qu'il y en a qui se la posent encore? C'est des questions profondes, hein? Ben, j'ai la réponse ce matin. C'est beau, hein? J'ai la réponse. Il n'y a pas qu'une réponse, d'accord? Il n'y a pas une réponse au sens de notre vie. Mais il y a une réponse de fond qui est là et qui est un socle pour tout le reste. Tout ce qui va être ajouté sera ajouté par-dessus ce socle-là, et c'est ce socle-là dont je veux parler ce matin. Alors je vous invite, si vous l'avez avec vous, à prendre vos Bibles dans Éphésiens. Et j'ai envie que ce matin, on lise 4 versets et qu'on passe la matinée sur ces 4 versets. Éphésiens 1, à partir du verset 3 et jusqu'au verset 6. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Vous savez quoi ? On pourrait passer une année sur ces 4 versets. Et forcément, je vais en frustrer quelques-uns ce matin parce qu'on ne pourra pas tout dire, tellement ces 4 versets sont incroyablement riches. Mais je vous propose qu'on passe verset après verset et puis qu'on puisse regarder là-dedans la richesse de ce que Paul nous révèle, de ce que l'Esprit a révélé à Paul et de ce qu'il a transmis par écrit. Alors Éphésiens 1 au verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Alors comment ça commence? Ça commence par « Béni soit Dieu ». Béni soit Dieu. C'est par là que Paul y commence et c'est par là que j'aimerais commencer moi aussi. On l'a fait ensemble ce matin. Béni soit Dieu. On pourrait s'arrêter là. Béni soit Dieu. C'est un cri. Béni soit Dieu qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Bénir Dieu, c'est le louer, c'est le glorifier, c'est reconnaître sa grâce, son amour, c'est l'adorer, c'est se prosterner, c'est lui faire confiance, l'obéir. Bénir Dieu. Et bénir Dieu, louer Dieu, je vais trahir la fin du message, hein, mais comme ça, si vous ne restez pas jusqu'à la fin, vous l'aurez cette conclusion. C'est la raison d'être de notre existence. C'est le but ultime, en fait, de toutes nos vies de disciples. Si on cherche un but ultime, si on cherche un sens à notre vie, c'est celui de rendre gloire à Dieu, tout simplement, de bénir Dieu, de crier avec Paul et de crier avec tous les anges qui sont là devant le trône et de crier avec Dieu lui-même. Il y a une louange au sein de cette Trinité. On a un Dieu qui est un et qui est trois personnes qui se louent entre elles. Béni soit Dieu. Voilà la raison d'être de nos vies sur cette terre. Si nous avons été créés, c'est pour bénir Dieu. C'est pour le louer. Si nous existons, c'est pour le louer. S'il s'est révélé à nous, c'est pour le louer. S'il nous a sauvés, c'est pour le louer. Alors voilà le sens de nos vies. Et si parfois quelques-uns, les uns ou les autres, on peut être perdus par rapport à « Mais Seigneur, c'est quoi ma vie? Elle sert à quoi? Elle sert à quoi? Elle sert à me louer. » Alors, commence par là. Fais ça. Ok? Amen. On est tous « Amen » qu'il en soit ainsi. Amen à cette chose-là. Alors, béni soit Dieu, ok. Béni soit, alors c'est curieux parce que j'aimerais vous attirer l'attention sur la manière dont Paul il le dit. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette formulation, elle est un petit peu bizarre parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il présente le Père comme le Dieu de Jésus, le Dieu de Dieu. C'est un peu surprenant, et si cette formulation, elle vous interpelle, en réalité, le sens qu'il y a derrière ça, il y a une virgule qui peut être rajoutée. D'ailleurs, quand Pierre utilise la formulation, lui, il met une virgule, c'est « Béni soit Dieu, virgule, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ ». Mais on retrouve cette formulation souvent de la part de Paul qui dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ » parce que Paul veut mettre l'emphase en une seule phrase, en un seul trait, sur une chose qui est, je trouve, importante, c'est de présenter Dieu comme Dieu et Dieu comme Père. C'est comme s'il n'arrivait pas à faire cette séparation, de dire « Béni soit Dieu et puis le Père ». Non, c'est « Béni soit le Dieu et Père ». Et c'est intéressant et c'est riche, je trouve, pour nous, de juste penser que le Créateur de toute la terre, de tout l'univers, celui qui tient toute l'histoire entre ses mains, celui qui est bien au-dessus de nous, incroyablement élevé, incroyablement immense, dont il est dit que même les cieux des cieux ne peuvent pas le contenir, eh bien que ce Dieu-là est aussi notre Père et se présente à nous comme un Père. Et cette notion de Père, elle est incroyablement forte et précieuse. Si jamais vous passez rapidement dessus, je vous invite à vous arrêter sur cette dimension de Père. Dieu est Père. Il est Père de Jésus-Christ et il est Père de nous en Jésus-Christ parce que nous sommes des enfants adoptifs en Jésus. Et quand on parle de cette dimension de Père, de proximité pour nous, il y a cette notion de filiation. Si Dieu est un Père, c'est qu'il a des enfants. Il y a cette notion de filiation, et s'il y a cette notion de filiation, il y a donc aussi cette notion d'héritage. Et c'est de cet héritage dont Paul parle quand il nous dit « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. » Et donc, on poursuit sur ce verset « Qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. » J'aimerais juste vous rendre attentif que dans le début de ce verset, il y a un contraste. Il y a un même mot qui est utilisé par Paul pour le fait que nous bénissons Dieu et le fait que Dieu nous bénit. Et ce contraste, il est que Paul dit « Béni soit Dieu !» Mais c'est du passif. C'est uniquement en parole. « Béni soit Dieu !» Et ça nous place aussi à notre réalité d'homme. Voilà tout ce que nous pouvons faire. Bénir Dieu avec nos paroles, bénir Dieu avec nos actes, bien sûr, mais bénir Dieu par rapport à ce qui boue à l'intérieur de moi et ce qui monte à mes lèvres et le fait que je vais pouvoir dire « Béni soit Dieu ». Mais en comparaison de ça, est-ce que Dieu dit « Béni soit les hommes » ? Non. Paul nous dit, alors que nous disons « Béni soit Dieu », c'est parce que lui, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle et cette phrase-là, elle est au sens actif. Nous disons « Béni soit », lui il dit « Il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ ». Dieu bénit par des faits, Dieu bénit par des bénédictions qui sont des grâces immenses et elles sont spirituelles. Pourquoi elles sont spirituelles ces bénédictions ? Est-ce qu'elles sont simplement invisibles, immatérielles ? Est-ce qu'elles sont simplement psychiques ? Est-ce qu'elles sont des choses qu'on ne voit pas ? Qui ne sont pas matérielles? Non, c'est simplement qu'elles émanent de son esprit et qu'elles nous sont données par son esprit et que c'est l'action de son esprit qui rend ces bénédictions spirituelles. Elles sont transportées par l'esprit pour chacun d'entre nous. Et Dieu nous bénit et il va bénir financièrement, il va bénir dans la santé, il va bénir dans tout un tas de sujets de nos vies qui peuvent paraître insignifiants à l'échelle d'un Dieu qui tient l'ensemble de l'histoire entre ses mains, et pourtant, Dieu comme un père prend soin de bénir concrètement dans le détail des petites choses de nos vies comme des grandes. Quel sujet de reconnaissance! Moi, ça me donne déjà envie de louer quand je pense à tout ça. Je me dis comment je peux rester muet en disant tout ça, Seigneur, merci pour ce que tu fais, c'est incroyable. J'aimerais aussi vous inviter à remarquer le temps qui est utilisé. Il nous a bénis. Paul n'est pas en train de dire « il nous bénit, il est en train de nous bénir ». Non, il y a une dimension de quelque chose qui est déjà accompli, qui a déjà été fait. Dieu nous a bénis. Il nous a bénis, je vous invite à regarder aussi ce superlatif, il nous a bénis de toute bénédiction. Là, Paul, il est en train d'aller loin, il nous dit, il utilise, comme Paul aime bien le faire d'ailleurs, hein, il utilise des extrêmes en nous disant, il nous a déjà bénis, c'est déjà fait, il n'y a plus rien à faire de plus que ça, et il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Il est en train de nous dire, il n'y a rien d'autre à ajouter à ça. Ce que Dieu fait pour nous au travers de Jésus-Christ, il l'a déjà fait et nous n'avons rien d'autre à ajouter. Rien d'autre. Quel sujet de reconnaissance, je trouve. Ok, mais Paul, il nous dit quoi? Il nous dit, on dissèque le verset hein, ce matin, il nous dit que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Alors, est-ce que ça veut dire que ces bénédictions, et c'est ce qui pourrait expliquer aussi que ben on est malade et que tout va pas toujours bien, que financièrement des fois c'est chaud à la fin du mois ou peut-être même des fois au début. Est-ce que ça veut dire que toutes ces bénédictions, et c'est une question légitime, est-ce qu'elles sont pour plus tard? Est-ce qu'elles sont pour quand nous serons dans les lieux célestes? Au sens où en fait, Paul est en train de nous révéler que Dieu nous a préparé un avenir au ciel après le retour de Christ qui est absolument glorieux et qui est plein de la bénédiction totale et entière du Père pour nous. Et est-ce que c'est là, dans les lieux célestes, que nous allons recevoir cette bénédiction? On pourrait le voir comme ça. Mais le reste de la parole nous montre que ce n'est pas du tout le cas. Et que Dieu bénit ici, sur la terre, maintenant, sur chacun de nous. Il bénit parce qu'il se plaît à le faire, parce qu'il nous aime, parce qu'il est bon et parce que c'est un sujet de louange et de reconnaissance pour nous que le fait qu'il bénisse. Il bénit et je suis reconnaissant. Et donc, non, ces bénédictions ne sont pas uniquement réservées au lieu céleste et au moment où je serai rappelé par Christ, elles sont déjà pour aujourd'hui. Paul, il nous indique que c'est l'origine des bénédictions dont il rend grâce. C'est pas des bénédictions qui viennent de la terre. Et je trouve que c'est intéressant aussi ça. Parce que des fois, on bénéficie du fruit de notre travail et on est reconnaissant à Dieu de ça. Et en même temps, on peut avoir en tête, en tout cas moi, j'ai déjà eu cette pensée-là, quand je l'ai réalisé, ça m'a interpellé, de dire qu'en même temps, j'étais reconnaissant à Dieu, mais qu'en même temps, j'avais vraiment le sentiment de pouvoir bénéficier de quelque chose qui venait de la terre, du fruit de mon travail et de ces choses-là, jusqu'à ce que je réalise que même le bénéfice de mon travail est une bénédiction qui ne vient pas de la terre, mais qui vient des lieux célestes. Dieu n'est absent de rien. C'est ça que ça nous dit. Dieu n'est absent de rien. Il n'y a aucun processus dans lequel Dieu n'est pas à l'œuvre. Quand il a créé, entre ses doigts, là, il a contenu l'énergie entière de tout l'univers et tac, le Big Bang est parti. Il a créé l'univers. Incroyable. Est-ce que derrière, il était absent du processus de création? Non. Non. Et donc, tout ce dont nous sommes au bénéfice, souvenons-nous toujours, toujours, toujours de reconnaître que ces bénédictions, elles viennent des lieux célestes. Vous me suivez? Alors, bien sûr, ça nous parle aussi déjà, enfin, ça nous parle du déjà et du pas encore. Hein. Clairement, dans cette vie, on trime aussi. Oui, il y a des difficultés. Oui, il y a des morts, et on le voit dans cette saison en ce moment. Oui, il y a des maladies. Il y a des difficultés dans chacune de nos vies. Ça veut dire que, oui, on a déjà accès à l'héritage que Dieu il nous donne en tant que fils et fille adoptifs, parce qu'il nous a pleinement offert cet héritage en Jésus-Christ. Mais en même temps, nous ne posséderons cet héritage pleinement qu'après le retour de Christ. Comprenez cette dimension-là. Dieu a béni déjà, et il a béni pleinement, parce qu'il nous a donné toute bénédiction, par l'Esprit, en Jésus-Christ, et une partie de ces bénédictions sont déversées sur la terre, dans nos vies, et sur la terre au sens large. Et une partie, en tout cas la dimension pleine de sa bénédiction, nous l'aurons quand nous serons dans sa présence au ciel. Mais ce n'est pas des bénédictions que Dieu va ajouter. C'est juste une réalité spirituelle qui va devenir une réalité nouvellement terrestre pour nous. Allez, je vais passer, je vais aller un peu plus vite, sinon on va partir dans des grands sujets. Et, ouais, c'est là-dessus que je voulais attirer l'attention aussi. Que Paul, il nous dit qu'on a déjà été béni de toute bénédiction spirituelle, d'accord, du ciel par son esprit. Et j'aimerais nous rappeler que c'est ce même Paul qui nous dit que nous devons nous réjouir quand on est dans l'abondance ou quand on est dans la famine. Et ça nous indique quelque chose, ça. Ça nous indique que ce que je traverse, l'abondance ou la famine, n'implique pas que je suis plus ou moins béni. Vous comprenez ça? C'est extrêmement important. Ce que je traverse n'implique pas que je suis dans une saison où Dieu me bénit plus ou que Dieu me bénit moins. Parce que Dieu a déjà béni de toute bénédiction spirituelle. Et Paul nous explique que je sois dans la famine ou que je sois dans l'abondance, j'ai toujours un sujet d'être reconnaissant. Reconnaissant pourquoi? Parce que Dieu a béni, déjà, c'est déjà fait. Et après, je reconnais les saisons dans lesquelles je traverse. Et ça ne m'empêche pas de prier que ces saisons-là, quand elles sont difficiles, elles se terminent. Et de prier aussi, Seigneur, libère cette bénédiction que tu as pour moi dans le ciel. Libère ça sur la terre. Bénis-moi, Seigneur. Oui, nous pouvons réclamer. Mais en n'oubliant jamais que même si nous sommes dans le besoin, même si nous sommes dans la famine, nous sommes bénis. Nous sommes bénis en permanence. Et nous sommes bénis comment? C'est de cette manière-là que finit ce verset. Nous sommes bénis en Christ. Et ça, c'est tellement, tellement, tellement important de reconnaître qu'en fait, tout ce qu'on vient de dire là, ça n'est possible qu'au travers de Jésus-Christ. Parce qu'il a donné sa vie, qu'il est mort, qu'il est ressuscité, qu'il est assis à la droite de Dieu et que nos vies sont en lui. Et parce que nos vies sont en lui, nous sommes bénis parce que lui, il est béni. Et parce que nos vies sont en lui, nous pouvons nous aussi crier « Abba, Père, béni soit Dieu !» Mais si on enlève Jésus de cette équation, tout le reste s'écroule. Christ est central dans ce qu'on vient de dire là. Il n'est pas exclusif, c'est pas le seul. On est en train de parler de la bénédiction du Père par l'Esprit. Mais tout ça se fait en Christ. C'est Christ qui permet que cette réalité de l'amour du Père par l'Esprit devienne une réalité dans nos vies concrètes, tangibles et un sujet incroyable de reconnaissance jour après jour, après jour, après jour, après jour. Alors on va passer un tout petit peu plus vite sur la suite. Éphésiens 1,4 nous dit « En lui, donc en Jésus encore, hein, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut. » Et puis le reste là, dans son amour, je vais les rattacher au verset suivant. Donc en lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde. À la base de toutes les bénédictions spirituelles que Paul va détailler, parce que dans les versets qui suivent, il va détailler un certain nombre de bénédictions spirituelles. Je vous invite juste à relire Éphésiens 1 et dites-moi si après avoir lu ça, vous êtes incapable de louer et de rendre gloire à Dieu. Moi, ce n'est pas possible. C'est pas possible. On a envie de crier avec Paul et de reconnaître, mais oh, Seigneur, tu es encore plus magnifique, encore plus merveilleux que ce que j'avais pensé. Et donc, à la base de toutes les bénédictions spirituelles que Paul va énumérer, il y en a une que Paul énumère en premier, c'est notre élection. L'élection venant de Dieu, le fait que nous avons été choisis dès avant la fondation du monde. C'est un mystère. C'est un mystère que Dieu savait ce qui allait se passer et les fait quand même de cette manière-là. Et que dans cette manière-là, il nous est nous aussi choisis depuis avant la fondation du monde. Alors, clairement, ce n'est pas le sujet de ce matin, et donc je ne vais ni le détailler, ni le démontrer, mais je veux juste poser cette vérité-là ce matin. Nous avons été choisis par Dieu avant même que le monde ait été créé. C'est ce que Paul nous explique. Mais cette vérité de notre élection, du fait que j'ai été choisi, elle n'est pas complète si j'oublie le début du verset qui me dit que c'est en lui que nous avons été choisis. Et j'aimerais présenter l'élection de cette manière-là ce matin pour nous. Dieu a choisi le Fils. Le Père a choisi le Fils. Et parce qu'il a choisi le Fils, il nous a choisis alors que nous sommes dans le Fils. Dieu ne nous choisit pas au hasard les uns les autres. Je vais prendre un tel, je vais prendre un tel sur la terre parce que lui il mérite, lui il mérite pas, ou lui il est bien et lui il est pas bien. Dieu a choisi le Fils. Et c'est à l'intérieur du Fils que nous avons été nous aussi choisis. Donc souvenons-nous encore une fois que tout ce que nous avons, toutes les bénédictions spirituelles, elles sont au travers de Jésus-Christ. C'est ce que je disais tout à l'heure, et dans le cadre de l'élection, ça s'applique encore. Encore. Il n'y a aucune bénédiction de nos vies qui est en dehors de, au travers de Jésus-Christ. Et ça, honnêtement, ça nous garde humbles et ça nous garde reconnaissants de savoir que tout ce que je peux avoir, c'est uniquement parce que ma vie, elle est à l'intérieur du Fils et que lui, le Fils, il a été trouvé digne et que lui, le Fils, il a été choisi par le Père et que lui, le Fils, il est béni par le Père et que c'est au travers de lui que je suis héritier moi aussi de toutes ces choses-là. Ça me rappelle à quel point j'ai une louange dans mon cœur que j'ai de plus en plus de mal à contenir au fur et à mesure que j'avance dans ce message, de dire « Mais Seigneur, quelle grâce incroyable tu nous as fait dans le sacrifice de Jésus-Christ qu'on a encore célébré ce matin. Quelle espérance et quel sujet de louange. » Alors, il faut que j'avance quand même. Il nous a choisis avant la création du monde, pourquoi ? Pour qu'on soit saints et sans défaut devant lui. Ok, Paul, il nous dit quoi là ? Est-ce qu'il nous dit qu'on a été choisi parce qu'on était saint ou pour qu'on le devienne ? Pour qu'on le devienne. On n'a rien mérité et on ne méritera rien par nos efforts. On l'a dit avant, tout est au travers de Jésus-Christ. Nous sommes au bénéfice de sa grâce, au bénéfice de son pardon qui nous est accordé au travers de Jésus-Christ. Et c'est une grâce, c'est une bénédiction spirituelle. Ça fait partie de ces bénédictions dont Dieu le Père nous a bénis depuis avant la fondation du monde. Et cette grâce imméritée, elle doit nous pousser à la justice. Elle doit nous pousser à la justice. Quand je réalise à quel point il n'y a rien finalement qui vient de moi, à quel point j'ai besoin d'être au travers de Jésus-Christ, à quel point c'est une grâce complètement incroyable que toutes ces bénédictions-là soient déversées sur ma vie, ça doit me pousser à louer, à reconnaître, à rendre gloire, mais ça doit aussi me pousser à répondre. À répondre en disant « Mais ok, mais ma vie, je veux la conformer à tes prescriptions, Seigneur. Je veux marcher selon ta volonté. Je veux mettre ma vie en règle. » Et je nous invite, on en a besoin souvent, et il n'y a pas de point légaliste dans ce que je suis en train de dire, parce qu'il n'y a pas de condamnation, mais à toujours regarder dans nos cœurs et dans ce qu'on fait. Est-ce qu'on honore Dieu avec tout ce qu'on fait, avec tout ce qu'on est ? Est-ce qu'il y a des chose qu'on aurait besoin de couper un peu de temps en temps, dont on aurait besoin de se débarrasser, parce que cette grâce, elle me pousse à la justice. La sainteté, elle n'est pas un processus pour que Dieu m'accepte davantage. Il m'a déjà accepté au travers de Jésus-Christ. Elle n'est pas un processus pour que Dieu me bénisse davantage. J'ai déjà été béni au travers de Jésus-Christ. Et c'est sa grâce qui me pousse à la justice, à vivre selon les règles du royaume dans lequel j'appartiens maintenant, celui de Dieu. Donc, marchons avec obéissance sur un chemin de droiture et de justice, parce que les amis, notre obéissance est une louange à Dieu. Notre obéissance est une louange. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu la louange aussi de cette manière-là, mais le fait d'obéir rend gloire à Dieu. Amen. On poursuit. Éphésiens 1, 5. Vous voyez qu'on avance quand même. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. Et donc ce verset, il est miroir du verset précédent et il nous révèle quelque chose de plus. Il nous révèle que c'est l'amour de Dieu qui est la cause de l'élection, qui est la cause du fait que nous sommes choisis. Paul précise ça. Et c'est bien qu'il le précise, et la Bible le dit en long, en large et en travers, que l'essence de Dieu est une essence d'amour. Notre Dieu est un Dieu d'amour, c'est une caractéristique principale de Dieu. Et c'est vraiment son amour qui précède l'élection, qui précède le fait que Dieu a choisi, au travers du Fils, de choisir. Et il n'y a aucune autre raison plus grande pour avoir été choisi par Dieu que le fait que Dieu est amour. Et que c'est son amour qui précède de tout ça au travers de Jésus-Christ. Et donc, là, ce matin encore, je ne vais ni détailler ni démontrer le sujet de la prédestination. D'accord ? C'est un sujet long et on pourrait en parler lors d'une étude biblique, par exemple, sur l'élection et la prédestination. Peut-être qu'on le fera. Je vais simplement dire que nous étions tous destinés à la mort éternelle. D'accord ? Tous. Depuis la chute, nous étions destinés à la mort et que dans sa grâce et dans son amour, Dieu nous prédestine à la vie éternelle. D'accord ? C'est de cette manière-là que je vous invite à voir la prédestination ce matin, sans qu'on rentre dans plus de détails. Nous étions les uns et les autres destinés à la mort éternelle et Dieu nous a, dans son amour, prédestinés à la vie éternelle. Il a choisi que ce soit comme ça. Et cette prédestination, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Qu'est-ce que Paul nous dit dans ce verset ? Il nous dit qu'elle fait de nous des enfants adoptifs. Donc ça nous rend légitimes. La prédestination de Dieu ne nous fait pas simplement hériter de bénédictions, ne nous donne pas simplement un pass pour dire « Ok, tu peux rentrer dans mon royaume parce que maintenant tu es prédestiné pour la vie éternelle ». Non, elle fait plus que ça. Cette prédestination, elle fait que les uns et les autres, nous sommes des enfants légitimes de Dieu le Père et que donc nous pouvons nous associer à la louange qui est partout, ceci dit, non, juste à celle de Christ, qui dit, et de l'Esprit, qui dit « Abba, Père !» Parce que les anges, ils ne crient pas « Abba, Père », forcément, hein, ils louent Dieu d'une autre manière. J'ai failli faire une bêtise en disant que tout le ciel criait « Abba, Père », mais en fait, non. Vous imaginez le privilège incroyable qu'on a ? C'est juste fou de se dire qu'on est rendu participant à cette louange de Jésus qui crie « Abba, Père !» Et j'avais fait un message là-dessus, hein. C'est pas un Abba Père, Abba Père, non, le terme qui est utilisé c'est une vocifération, c'est Abba Père, il y a un truc qui bouillonne, qui crie, c'est... Voilà, bref. Et donc tout ça, Paul nous dit que c'est ce que Dieu a voulu dans sa bienveillance. Et ces derniers mots, ils expriment pas seulement l'amour de Dieu dans l'acte de notre prédestination, parce que Paul, il a déjà dit que c'est cet amour qui était au préalable à notre élection, mais il nous rappelle aussi la souveraineté de la volonté de Dieu dans ce processus. Et quand on parle de la souveraineté de la volonté de Dieu dans cette dimension du fait que nous avons été choisis pour être ses enfants adoptifs, ça exclut notre propre volonté de l'équation. Que je le veuille ou que je le veuille pas, ce que Dieu veut faire, il le fait. Des fois, on croit qu'on peut tordre Dieu et qu'on peut changer ses plans et qu'on va à long terme le forcer. La volonté de Dieu est souveraine. Et même quand il est question de mon salut, quand il est question de devenir un enfant adoptif de Dieu le Père, même là, il est question de la souveraineté, de la volonté de Dieu et non pas de ma volonté, à reconnaître que Dieu est mon sauveur. Même là, même dans le processus de mon salut et du fait que je donne ma vie à Christ, il est encore souverain et il est encore glorifié. Vous comprenez qu'en fait, il n'y a aucun moment de nos existences où on peut se glorifier nous-mêmes de ce qu'on a ou de ce qui nous arrive ou de ce qui va nous arriver. Et qu'il n'y a aucun moment de nos vies et de nos existences dans lequel nous n'avons pas de raison de louer Dieu et de lui rendre gloire et de reconnaître qu'il est au-dessus de toute chose. Donc, c'est encore un sujet de reconnaissance. Et je conclue ce message par Éphésiens 1, 6, qui nous dit « Pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. » Voilà le but ultime de tout ce que nous avons dit. Il nous aime, il nous a bénis de toute bénédiction spirituelle, il nous a choisis, il nous a prédestinés, tout ça au travers de Jésus-Christ. Pourquoi ? Pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Voilà la finalité de toutes ces choses-là. C'est que de nos vies et que de nos bouches et que de nos actions, nous rendions gloire à Dieu. La Bible, elle nous dit qu'au retour de Jésus, tout va passer. Tout. Il est question de nouveaux cieux, de nouvelles terres. Alors que ce soit un nouvel univers ou que ce soit un univers qui soit restauré, rétabli, peu importe. Il y aura nouveaux cieux, nouvelles terres. Tout va passer. Tout. Et quand on y pense, même l'évangélisation, elle va disparaître. Dieu sera là. On n'aura plus besoin d'aller jusqu'aux extrémités de la terre pour annoncer la bonne nouvelle que Jésus est mort et ressuscité et qu'il va revenir. Il est revenu et tout œil le verra, comme je l'ai dit ce matin dans ma prière. Tout œil le verra. Nul ne pourra ignorer que Jésus est là et que le Père est là et que l'Esprit est là. Même cette évangélisation, elle va disparaître. Même ce grand mandat que Jésus nous a laissé avant de partir. Allez jusqu'aux extrémités de la terre. Faites de toutes les nations des disciples ou faites des disciples parmi toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père. Enseignez-leur ce que je vous ai prescrit. Et moi, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce mandat qui prend une place importante dans nos vies, qui doit prendre une place importante dans nos vies, le fait de témoigner de l'Évangile autour de nous en permanence, et ça mériterait qu'on fasse aussi un autre message là-dessus pour nous encourager à témoigner peut-être encore davantage. Mais même ça, ça va passer. Même ça, ça va passer. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand je vais évangéliser, je ne le fais pas pour que plus de gens soient sauvés. Je le fais pour que plus de gens rendent gloire à Dieu. Voilà ce que je fais quand j'évangélise. Parce que le but ultime n'est pas le salut. Parce que le but ultime n'est pas l'évangélisation. Parce que le but ultime, le sens même de nos vies, est juste de rendre gloire et de louer Dieu. Et tout ce que nous faisons poursuit cet objectif-là. On a des groupes d'enfants ce matin. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on veut enseigner les enfants, leur apprendre qui est Dieu et leur permettre de louer non pas une idée, mais de louer quelqu'un qu'ils connaissent. Et il se passe des choses géniales dans ces groupes d'enfants. Pourquoi est-ce qu'on parle ce matin ? Pourquoi est-ce qu'on se réunit ? Pour que le corps s'édifie les uns et les autres, pour que nous débordions les uns sur les autres, pour que nos prières nous encouragent, pour que nous puissions nous rassembler, louer ensemble notre Dieu et nous encourager au travers de ça. À faire quoi ? À louer encore plus. Pourquoi nous faisons des messages et des enseignements ? Pour révéler qui est Dieu dans la parole, pour dire qui il est. Mais pour que de nos cœurs, une louange jaillisse. La finalité de toute chose, les amis, est toujours la louange. Elle n'est pas exclusive, ce n'est pas la seule chose que nous faisons dans nos vies, mais elle est la finalité ultime de toutes nos vies. Elle est la raison d'être de toute notre existence. Si nous passions l'ensemble de notre vie à genoux, en train de louer Dieu, nous ne serions pas passés à côté du sens de notre vie sur la terre. Amen. Alors j'ai envie de vous laisser quelques questions quand même, de nous laisser, parce que je me mets vraiment, vraiment dans le panier de ces questions que je vais vous laisser. Mais j'ai envie de nous interroger sur... Pierre, la semaine dernière, et je vais le mettre en ligne aujourd'hui le message parce que je ne l'avais pas récupéré sur clé, a fait un message sur la louange et il nous a interpellé avec cette question-là. Le titre de son message, c'était « Est-ce que quand je loue Dieu, je loue Dieu ?» Et c'était vraiment une invitation à réaliser qu'est-ce qui est ma louange, de quoi elle est faite. Et est-ce que quand je loue vraiment, Dieu. Et j'ai envie de nous interpeller peut-être un peu de la même manière, de dire, est-ce que notre louange, elle reflète cette dimension ultime auquel Dieu nous appelle? Ou est-ce que notre louange est une activité parmi toutes les activités auxquelles Dieu m'appelle? Est-ce que la louange dans ma vie est au même niveau que l'évangélisation et que toutes ces autres choses? Ou est-ce qu'elle a une place prépondérante? Et il me semble que, au travers du message de ce matin et de ce à quoi Paul nous invite, et au-delà de Paul, hein, l'ensemble de l'Écriture, j'ai juste pris Éphésiens ce matin, mais il y en a beaucoup d'autres, la louange à Dieu a une place prépondérante dans nos vies, doit avoir une place prépondérante. Elle n'enlève pas le reste, mais elle garde une place prépondérante. Et j'aimerais nous inviter à ce que la louange ait cette place-là dans nos vies. Notre louange personnelle, est-ce qu'elle reflète le fait que c'est le but ultime auquel je suis appelé dans la vie? Et est-ce que notre louange communautaire, elle est modelée par cette aspiration qui est grandiose et qui est ultime, que quand nous nous retrouvons, nous rendons toute la gloire à Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, et que tous ensemble nous crions Abba, Père! Est-ce que je fais plus de bruit quand j'écoute un match de foot et qu'il y a un but? Ou quand je loue, faisons du bruit. On a la chance d'avoir des voisins qui sont hyper sympas ici. Il n'y en a aucun qui râle quand on fait du bruit. Et c'est une grâce. Je veux dire, ce n'est pas partout pareil. Merci Seigneur pour cette liberté, ce privilège qu'on a ici de pouvoir faire du bruit. Alors que notre louange fasse du bruit, les amis. Que notre louange, elle fasse trembler les murs. Que notre louange, elle fasse tomber les murailles, comme ça s'est passé à Jéricho, au son de la trompette, la ville a été donnée. Moi, je crois que quand on place la louange, enfin, c'est pas je crois, c'est je crois que la Bible me dit, c'est pas juste une croyance personnelle, que quand la louange est à une place dominante dans nos vies et dans nos églises, il y a un fruit qui en découle. Pour nos vies, pour notre communauté, et où le royaume de Dieu avance d'une manière incroyable. Parce que ça inonde tous les domaines de nos vies. Vous êtes d'accord avec ça? Ouais? On veut le voir? Ouais. Alors je nous invite à jamais rester silencieux, à vociférer. Je nous invite à cultiver une dimension de la louange personnelle quand nous sommes tout seuls dans nos maisons, qui soit grande, qui prenne encore plus de place. Je nous invite, quand nous nous retrouvons ensemble, à ce que nos temps de louange soit pas juste un temps pendant le culte, mais soit un temps particulier que nous attendons, dans lequel nous nous rassemblons et dans lequel nous nous engageons avec tout notre corps, avec tout ce que nous sommes, parce que la louange de Dieu a une place prépondérante dans nos vies. Amen. Je vais finir avec ça. Tu veux terminer ou tu veux que je prie? Tu veux que je prie? Et si on se levait? En ligne, vous avez le droit de vous lever aussi si vous voulez. On a eu plein de démonstrations que Zoom, il n'arrête pas l'esprit. Il n'arrête pas le Saint-Esprit. Il y a des guérisons, il y a des choses incroyables qui se font au travers de Zoom. Merci Seigneur pour tous ces outils qui nous permettent d'être à la fois à distance et sur place. Oh Seigneur. Merci pour ce que tu nous dis dans ta parole et que tu nous rappelles encore ce matin, Seigneur, que la louange de ton nom est primordial dans nos vies, Seigneur. Et on veut pas l'oublier, Seigneur. On veut saisir ce trésor ce matin, l'écrire dans nos cœurs, avec une encre indélébile, Seigneur. Aide-nous par ton esprit à ce que ça ne s'efface pas, de toujours nous souvenir que la louange de ton nom et le fait de te rendre gloire est le but ultime et le sens de toutes nos existences, Seigneur. Merci pour ta grâce. Nous avons parlé de ton plan parfait ce matin. Nous avons parlé de ton œuvre au travers de Jésus-Christ. Nous avons parlé, Père, de ton amour, de ta bonté. Nous avons parlé de Saint-Esprit, comment tu amènes toutes ces choses-là à la réalité, à la fois dans nos cœurs et sur la terre. Ah, tout ça, ce sont des sujets de reconnaissance. Nous sommes tellement, tellement heureux, Seigneur, et reconnaissants de réaliser à quel point c'est un privilège que d'être choisi en Jésus-Christ aujourd'hui et de pouvoir élever la voix avec lui et de dire Abba, Père, Abba, Père, que ton esprit continue à révéler dans nos cœurs cette réalité, que ton esprit continue à la faire grandir tout au long de cette semaine, Seigneur, et que notre communauté fasse trembler les murs, Seigneur, fasse trembler les murailles par la puissance de sa louange, à la fois dans nos maisons et ici dans ces locaux, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Merci beaucoup.